Je vous propose d'explorer ce soir le monde de la deuxième vérité, la cause de la souffrance, ce qu'on appelle tanha, qui peut être traduit par désir, soif, attachement, saisie, agrippement. Et évidemment, quand on entend « cause de la souffrance », on monte notre petit breton. Ça, c'est l'ennemi à abattre. Mais pas du tout. C'est l'énergie à comprendre ou l'adversaire à maîtriser. Tanha, cette énergie de contrôle, s'applique au monde des sens mais aussi à tout ce qui est mental, à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est relationnel, le monde psychique imaginaire. Et en définitive, à moi. Nous sommes attachés à moi. Quelqu'un demandait, c'est quoi le moi dans la petite boîte en bas. Le Bouddha, il a défini le moi de manière très simple. Il a dit, pour qu'il y ait un moi, il faut qu'il y ait les cinq agrégats de la saisie. Pour que le moi se manifeste. Il n'y a pas de moi sans monde extérieur. Quand je dis moi, j'ai l'impression que c'est moi. Mais il n'y a pas de moi sans monde extérieur. Pour que le moi se manifeste, il faut qu'il y ait un contact. Et ce contact passe à travers nos sens. Même si le contact est un contact mental avec une pensée ou un souvenir, ce souvenir peut se manifester parce qu'il a été en lien avec les sens. Il s'est construit à travers nos sens. Et avant d'aller vraiment dans Tanha, dans cette soif, j'aimerais juste redéfinir ces agrégats de la saisie. Le contact, il ne peut se produire que maintenant, et il est très souvent tellement neutre que nous ne nous rendons même pas compte que nous entrons en contact. Ceux dont nous nous rendons compte, c'est ceux qui ont ce qu'on appelle un sankhara, un poids karmique ou une formation karmique qui est plaisante ou déplaisante. Nous sommes touchés. Il y a du jus. Et alors le sens du moi est activé. Il y a quelque chose qui se forme. Quand on parle d'un sankhara karmique, ça veut dire que quelque chose se forme. Si c'est neutre, il n'y a rien qui se forme. Ça fait du rien. Là, ça fait du quelque chose. Et c'est subjectif. C'est à noter que c'est subjectif. C'est comme si c'est le tout début d'une emprise, ou en tout cas d'une saisie. Et bien sûr, ce contact est un contact qui a un impact corporel. C'est le premier impact. Ça crée une contraction ou une sensation ou quelque chose. Si c'est un contact très plaisant, ça peut créer une extension, quelque chose où, un étonnement, une ouverture. Et si c'est quelque chose de déplaisant, ça crée plutôt une contraction et une fermeture. Et lorsque le contact a un ressenti et des représentations plaisantes, l'impression c'est de... Ou plutôt ça nous fait créer des images ou des pensées associatives, inconscientes, ça va très vite. Qui nous font avoir l'impression que ça va bien, que je suis dans quelque chose de bon, on peut dire que ça nous met au paradis, ou dans quelque chose de très douloureux, ça nous met en enfer. Et c'est indépendant de notre volonté. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des sankhara d'effet. Il y a un effet du passé et ça crée la cause qui est là. Ouais, c'est plutôt un sankhara de cause. Il y a eu un effet et ça crée cette cause qui est là. Qui fait que on pourrait dire que le corps et l'esprit saisissent un contact. Si je regarde dehors les arbres, je ne vais pas les saisir. Mais si je suis en entretien avec quelqu'un, toute l'attention va aller vers la personne. Ou si j'ai pas d'enseignement à faire, il va y avoir des pensées peut-être comme ça, mais je ne vais pas monopoliser le corps et l'esprit pour aller vers le but que je me suis fixé. Donc, le premier aspect de ce processus qui fait contact et bien sûr interprétation et ressenti corporel, ça se passe, c'est. Et là, nous avons un choix. C'est là que Tanha, cette soif émerge. Et en général, qu'est-ce que ça fait lorsque quelque chose nous arrive et que nous c'est agréable? Eh ben, ah, ça j'aime. Je veux aller vers. Et si c'est désagréable, je le saisis, s'il y a du poids karmique. Mais l'impression, c'est je ne veux pas, je n'aime pas. Et que j'aime ou que je n'aime pas, ça engendre des pensées qui sont des formations, des constructions qui vont vers le futur, vers le devenir. Je veux devenir quelque chose avec ça que j'aime ou ça que je n'aime pas. Alors, dans un cas, je veux devenir quelque chose, si possible, je ne veux pas devenir, mais je suis quand même en train de tout construire pour ne pas devenir. Ou bien je veux devenir. Donc nous pouvons voir comment... prenez un exemple, si vous en avez un maintenant. Une pensée du passé, par exemple, disons qu'elle est désagréable, elle crée une contraction, plus ou moins consciente, elle crée une image, elle crée... une montée émotionnelle peut-être. Et puis, à partir de là, vous pouvez voir comment l'effet, c'est que la pensée s'active. Ce qu'on appelle des formations mentales ou des sankhara mentaux. Si le processus se fait dans la conscience, d'abord c'est intéressant, et puis nous pouvons éviter que l'aspect fait de la saisie ou de l'agrippement se fasse de manière trop aveugle. Parce que c'est là que vient un aspect très intéressant de la saisie, c'est ce qu'on appelle le besoin d'existence ou le besoin de non-existence. Si l'expérience est douloureuse, nous pouvons voir comment le mental se débat, il est confus, il cherche une porte de sortie, il est paniqué ou coincé dans ses opinions, fixe. Il est dans une recherche de solutions. Il est mis à l'étroit. En fait, tout est contracté et le mental panique. Et lorsque c'est agréable, on peut sentir comment il y a plutôt cette extension, cette expansion, et le mental s'enthousiasme, se projette, respire bien, il a l'impression que le monde lui appartient. Et toute cette zone, je peux la mettre plus haute, toute cette zone est en effervescence, plus ou moins. Vous voyez comment ? Ça, c'est la nature humaine. Et c'est beau qu'on se retrouve tous là. On n'a pas un qui me dit, oh non, alors moi, ça ne fait pas comme ça. Donc, nous nous exaltons ou nous nous déprimons. Donc, tanha, c'est une sorte de poussée. Et bien sûr, il y a une poussée de tanha qui est noble. Lorsque tanha cherche la justice, la bienveillance, la compassion, la sagesse, la générosité, le Bouddha parle de qualités qui sont arya, nobles. Et il y a d'ailleurs un autre mot pour qualifier cette poussée-là qui va vers la libération, c'est le mot chanda. Et pour le moment, nous pouvons le développer. Nous pouvons nous y attacher à mort. Il viendra bien un temps, il faudra le lâcher. Mais tanha, celui qui n'est pas noble, c'est celui qui couvre cette nature ouverte et généreuse et qui fait mal. C'est pas que ce soit mal, mais ça fait mal. Même si c'est une protection de colère, puis que j'ai l'impression que ça me soulage. Ça soulage un moment, mais après, ça ne fait pas du bien. Et ça ne fait en tout cas pas du bien à l'autre. Donc nous pouvons explorer, reconnaître cette soif d'avoir ou d'être ce que je veux, ce que je crois vouloir. Et nous pouvons sentir comment ça crée un conflit entre ce que je suis maintenant et ce que j'aimerais. Au fond, j'aimerais ce qui n'est pas là. Et c'est un paradoxe parce que ce que nous voulons vraiment, c'est un sentiment de complétude, d'unification, d'harmonie. Et en fait, nous créons la séparation. Et il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui créons cette séparation entre le réel de l'expérience et l'idée, ce que je veux. Le réel est mon envie. Je vous dis ce que dit le Bouddha. Si Si cette avidité collante et grossière vous submerge dans le monde, votre affliction va grandir comme l'herbe après la pluie. Si dans le monde vous surmontez cette avidité grossière, difficile à vaincre, les peines vont glisser sur vous comme des gouttes d'eau sur des feuilles de lotus. En lien au sens, Tanha peut être exploré de manière duelle, dans ce qu'il a de bénéfique et de non bénéfique. Il y a des sons, des paroles qui font très mal. Et il y a des sons merveilleux. Le chant des oiseaux, la musique de Mozart. Moi, la musique, c'est ce qui me fait le plus, c'est ce qui m'émeut le plus facilement. Et c'est beau, nous allons sentir ce tanha et avoir le choix de le laisser être. De même, au niveau des yeux, une peinture qui touche. On a la chance d'avoir Giannada, on n'emploie pas assez, nous autres, les Suisses. C'est que les étrangers qui emploient Giannada. Qui c'est qui est allé cette année à Giannada? Eh! Se ravir les yeux par des peintures qui touchent.
C'est l'expo de Blocher.
Ouais, c'est peut-être Blocher, mais c'est Anker qui a le fait derrière. Hein. Blocher a aussi sa générosité. Sacré Blocher. Et puis, il y a des choses qui, au niveau des yeux, sont insupportables. Les odeurs, les parfums, ou les odeurs nauséabondes. C'est facile de bien sentir et de voir combien il y a cet attrait et ce rejet. Ou la nourriture, et les sens tactiles. L'attrait de la sexualité majeur, parce que ça donne ce sentiment incroyable d'union pour un court moment. Et puis l'horreur de la torture. Un homme peut infliger à l'autre des douleurs physiques inimaginables. Au niveau psychique, Tanha, le Bouddha a parlé de 6 aspects, enfin 8 avec le plaisir et la peine. Le plaisir et la peine psychique, c'est assez évident combien ça change et combien nous identifions, combien il y a cette saisie. La réussite et l'échec. C'est plutôt lié aux situations. Lorsque nous vivons une situation de réussite, ça fait du bien. Nous sommes rassurés, nous sommes contents. Peut-être qu'il y a un certain orgueil, peut-être qu'on se soucie un peu moins des autres, hein, un tout petit peu juste égoïste parce que ça va bien pour nous. Et lorsqu'il y a l'échec, alors peut-être qu'il y a la jalousie, le découragement. C'est dur de vivre un échec. Et souvent, nous nous sentons en situation d'échec sans forcément qu'on y soit. Justement, j'ai tout loupé. Ouais, ça arrive, j'ai l'impression de tout louper. Parce que Nous sommes extrêmement. Le monde des perceptions paraît extrêmement vrai, alors que ça n'est que le monde des perceptions. Le gain et la perte, c'est lié à la matière. En fait, c'est beaucoup plus que la matière. Lorsqu'on me vole mon porte-monnaie, la perception, c'est pas juste d'avoir perdu son porte-monnaie, c'est on m'a pris quelque chose. Je suis plus entière, il y a quelque chose, il y a un truc là derrière. L'argent est porteur d'autre chose que juste la matière. C'est vraiment toute notre sécurité, toute notre valeur. C'est drôle, hein, comme on veut. On aime toujours bien avoir plus, même si on n'a absolument pas besoin. On donne 1000 francs. C'est bien. On nous vole 1000 francs. Peut-être que ça ne change rien du tout, mais absolument rien à notre situation financière. Mais oh là là! La louange et le blâme, c'est plus profond parce que ça a trait à la personne, ça a trait à une valeur très profonde. Lorsqu'on me loue, qu'on me valorise, qu'on me reconnaît, ben c'est ouf quoi. Ouf, on m'aime. Et quand on me critique, qu'on me blâme, qu'on est injuste avec moi, qu'on me dévalorise, ah ben ça m'ébranle. Personne. Horreur, quoi. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tellement facilement s'ébranler soi-même. Celui qui est le plus critique envers nous-mêmes, c'est souvent nous-mêmes. Et d'entendre cette voix-là qui émerge, puis de la reconnaître pour, ah tiens, ça c'est Vibhava Tanha. Je me dévalorise. Donc il y a ces deux côtés, le côté du besoin d'existence, d'être beaucoup, d'être vu, d'être admiré, d'être sur le devant de la scène, dans cette qualité de réussite. Est ce qu'on appelle Vibhava Tanha, où nous n'avons plus envie de devenir. Nous avons envie d'être petits, de ne pas être vus. Nous sommes dans le rejet, dans la critique. Et ça paraît très vrai quand c'est là. C'est moi. C'est moi. Je vous lis dans le texte ce que dit le Bouddha. C'est un peu long comme toujours ces textes, mais ça permet de bien pénétrer. Lorsqu'une personne ne comprend pas le dharma, moine, il parle au moine, et qu'elle rencontre le gain ou la perte. C'est-à-dire, il ne parle pas au moine, il parle aux personnes engagées spirituellement. Lorsqu'une personne ne comprend pas le dharma et qu'elle rencontre le gain ou la perte, le succès ou l'échec, la louange ou le blâme, le plaisir ou la peine, cette personne ne sera pas. Toutes ces conditions sont impermanentes. Elles ont un potentiel de souffrance. Et elles peuvent changer n'importe quand. Cette personne ne verra pas ces conditions telles qu'elles sont vraiment. Avec une telle personne, le plaisir est la peine, le gain est la perte, le succès est l'échec, la louange et le blâme vont engloutir son esprit. Quand le gain est là, elle sera exaltée. Quand la perte est là, elle sera abattue. Quand le succès est là, elle sera exaltée. Quand l'échec est là, elle sera abattue. Quand la louange est là, elle sera exaltée. Quand le blâme est là, elle sera abattue. Quand le plaisir est là, elle sera exaltée. Quand la peine est là, elle sera abattue. Étant ainsi accaparée par ses « j'aime » et ses « je n'aime pas », son esprit ne sera pas libéré de la naissance, de la vieillesse, de la mort, du chagrin, des pleurs et des lamentations, de la détresse et du désespoir. Cette personne ne sera pas libérée de la souffrance. Mais moine, quand une personne comprend le dharma et qu'elle rencontre l'une de ses conditions, elle saura ce gain ou cette perte, ce succès ou cet échec, cette louange ou ce blâme, ce plaisir ou cette peine que je rencontre est impermanent. Il y a là un potentiel de souffrance et c'est sujet au changement. Elle comprend ces conditions telles qu'elles sont réellement. Ainsi, elles n'engloutissent pas son esprit. Elle ne sera pas exaltée par le gain et abattue par la perte, ni exaltée par le succès et abattue par l'échec, ni exaltée par la louange et abattue par le blâme, ni exaltée par le plaisir et abattue par la peine. Ayant renoncé à ses « j'aime » et à ses « je n'aime pas », elle sera libérée de la naissance, de la vieillesse et de la mort, des pleurs et des lamentations, de la détresse et du désespoir. Elle sera libérée de la souffrance. Voilà, moine, la différence entre une personne qui donne à l'expérience une réponse noble, libérée, éveillée, et une personne qui donne à l'expérience une réponse ordinaire. Il y a ces deux petites images tellement choues où il y a un bonhomme qui est assis tout content et puis qui dit je suis vraiment bien, c'est génial ce que je fais, je crois que ça m'est donné. C'est juste drôle qu'il n'y ait pas tout le monde qui le remarque. Et puis l'autre qui dit moi je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est trop pour moi. J'ai un problème quelque part, tous les autres sont mieux que moi. Et c'est ça, Tanha. C'est cette manière de succomber à l'ordinaire. La soif d'existence. C'est au fond le cœur de la souffrance ou de la libération. Et c'est bon d'entendre encore, parce que le but, c'est que ça s'intègre, que ça se digère, que les cellules comprennent. Et qu'au lieu que nous fassions ça, ou ça, nous fassions ça. Donc, quand il y a une bonne expérience, on peut sentir comment j'aime, je veux avoir, je veux garder. Et il n'y a rien besoin de changer. Il n'y a rien besoin de changer. Le désir, ça n'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est que nous ne comprenons pas. Il ne s'agit pas de prendre parti, de dire, ah ben maintenant je ne veux pas désirer. C'est la même chose, je désire ne pas désirer, ça va nous mener nulle part. C'est de nouveau ce double message. J'ai peur d'avoir peur, je suis en colère parce que je suis en colère, j'ai de l'aversion pour ma colère. C'est autrement. C'est juste de voir, on a la pleine conscience pour voir le processus. Et au fond, c'est parce qu'on le voit encore, encore, que peu à peu, il lâche. Reconnaître, nommer, explorer, accepter que ça se passe. Mara, c'est Mara, je te vois, Mara. Et à force de voir Mara, non seulement quand c'est désagréable, c'est facile de dire Mara quand c'est quelque chose qui nous gêne, mais quand c'est quelque chose de très bon et que je sens la saisie, ah, je te vois, Mara. Coucou, hein? Et alors, peu à peu, Mara est dégoûtée. Le Bouddha a dégoûté Mara d'essayer de venir essayer de le tenter. Parce que il ne se laissait pas tenter. Donc, à force qu'on dise je te vois, Mara, puis qu'elle dise oh zut, je te vois, Mara. Oh, bah mince, hein. Je te vois, Mara. Bravo, zut. Pour finir, elle en a marre. Il y a d'ailleurs une petite histoire très chou. C'est Mara qui dit: un jour, j'ai vu une corneille se précipiter pour attraper un bout de viande au bord du chemin. Mais en s'approchant, elle vit que ce n'était qu'un morceau de bois et elle s'éloigna dégoûtée. Moi aussi, je n'arrive pas à tenter le Bouddha. Je suis dégoûtée de Gautama. Nous usons. Ça demande de la suite dans les idées. L'endurance. C'est un chemin, non pas seulement d'une vie, mais de plusieurs vies. Donc nous pouvons voir comment, quand on se sent dans la cible, quelque chose s'y installe. J'y suis bien, ça peut durer, si seulement ça dure. Et on peut sentir cette espèce de satisfaction. Et bien sûr, on peut sentir le contraire. Il y a l'insatisfaction. L'énergie colle, l'énergie négative colle. J'ai l'impression que c'est moi, au secours. Pour le moi, le but, c'est que la souffrance s'en aille. Plus de souffrance, je la tuerai volontiers qu'elle soit loin, quoi. Mais ça, c'est la définition de la souffrance. Parce que le but, c'est de coexister en paix. C'est une force de conscience qui est plus puissante que les lois du monde conditionné. Nous sommes très attachés à nos valeurs et à nos pensées, à nos idéaux. C'est sûr que nos valeurs sont importantes. C'est ce qu'on appelle sila, c'est un aspect du chemin. Développer le renoncement, la bienveillance, la sincérité. Mais si ce sont mes valeurs et que je les défends comme la vérité ultime, je pervertis quelque chose qui était beau au départ. Ce sont des valeurs à chérir, à partager, mais elles sont conditionnées. Il y a des personnes qui ont des valeurs tellement différentes. Et leurs valeurs sont conditionnées. Lorsque nous sommes en contact avec des personnes qui ont des valeurs tellement différentes, ça crée souvent une contraction et un renforcement du sens du moi et un attachement à mes opinions. Alors que nous pouvons partager à l'autre, ça c'est mon opinion, ce sont mes valeurs, j'entends les tiennes sont différentes. Et quelquefois il faut mettre un stop qui est un stop puissant au niveau matériel, concret, physique. Mais au niveau intérieur, le cœur reste dans cette conscience que je pourrais être toi. Nous sommes tous conditionnés. Et le plus gros attachement, c'est l'attachement à la vie, à la terre, au moi. Je veux exister, je veux vivre. Alors, exister, vivre, devenir, oui, c'est beau, c'est. Mais le « je veux », il est de trop. C'est la même chose avec le bonheur. Le bonheur, il est maintenant, si je sais le voir. Mais si je le veux, en fait, ce que ça veut dire, c'est que je ne l'ai pas. Donc, d'une certaine manière, avec Tanha, c'est comme si nous étions déjà morts. Je veux vivre. C'est quoi ça? Mais je vis. Et lorsqu'il sera temps de mourir, si je veux bien mourir, ce sera merveille. Mais si je ne veux pas, ce sera dur. Parce que ça va se passer. Donc cette volonté, ce « je veux » est à mettre en lumière. Le « moi », il a cette espèce de vague espoir, de pouvoir, de toute puissance, de capacité, de jouissance. Dans la Kabbale et dans la tradition juive et chrétienne, ce sont les trois péchés, le pouvoir, la puissance et la jouissance. Alors, dans le bouddhisme, il n'y a aucun péché, mais il y a l'aveuglement. Nous sommes aveuglés. Et ça nous empêche quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. C'est cette capacité d'être, de lâcher prise, qui est beaucoup plus que la jouissance, le pouvoir ou la puissance. Et ce que je cherche, ben c'est là, c'est maintenant. C'est tout ce travail de continuité de présence, de lien à la présence, au dharma. Lâcher prise. Il y a donc nos petites soifs qu'on peut vraiment bien voir parce qu'on se lève le matin puis ça commence donc. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est dramatique. comment elle s'appelle? Sharon Salzberg qui disait c'est complètement impossible de tout saisir, mais c'est très facile de tout lâcher. Le lâcher prise, c'est simple, je lâche tout. Mais la saisie, si on veut essayer de saisir toutes nos soifs, mon vieux, on peut y aller. Il y a les petites et puis il y a les grandes. À cultiver, chanda, la soif de générosité, de bonté, de bienveillance, de sagesse. Et puis celle à avoir encore et encore. Il ne faut pas avoir peur ou rejeter l'injustice, la méchanceté, l'obstination, l'impatience, mais les voir. Et lorsqu'il y a ce chanda, cette soif de bien, de ce qui est bienfaisant, l'important c'est qu'il y ait avec une notion de gratuité. Pourquoi est-ce que les belles idées politiques ne marchent pas? C'est que derrière, il y a cet aveuglement. Je veux un monde parfait. Je veux la justice sur terre. Bienvenue au monde de l'aveuglement. La terre est justement là pour manifester la dualité de manière à ce que chacun à l'intérieur retrouve là d'où il vient, cette conscience ultime, universelle. Donc la terre ne va jamais être qui nous sommes, puisqu'elle est là pour nous permettre de nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes. C'est donc important de comprendre ça, de faire notre part pour qu'il y ait moins de souffrance, tout en sachant que c'est juste qu'elle soit là. Les talibans ont repris l'Afghanistan et puis je regardais les talibans qui ont vécu ces écoles coraniques où pour eux la seule chose importante c'est la doctrine. Et puis énergétiquement comment ils se situent, c'est l'enfer. Et puis après il y avait juste une image du clan de Massoud, c'est son fils qui a repris la direction, je crois, du Panjshir du Nord, c'est le seul endroit où il n'y a pas les talibans. Puis c'était tellement, ça m'a fait tellement du bien, parce qu'il y avait ce gars qui disait, ben nous, on défend des valeurs humaines, s'il faut, on donnera notre sang. Et il le disait d'une manière qui était tellement simple, sans attachement à la vie en tant que vie ou à la doctrine en tant que doctrine, mais avec un attachement aux valeurs de l'homme, toutes simples. Et dans un même pays, il y a toujours toutes ces énergies qui sont là et qui coexistent, l'ombre et la lumière, comme à l'intérieur de nos mains. Le monde est duel et la souffrance a un rôle ontologique, nous faire grandir vers la réalisation de qui nous sommes. Quelque chose de bien plus large que la petite poussière que nous sommes le temps de notre vie. Je vous lis encore, c'est une parole d'Ayakema, enfin une parole, non c'est le Bouddha. Le Bouddha a comparé les gens à quatre sortes de récipients en terre. Le premier récipient, il est plein à ras-bord de nos croupies, nos vues et nos opinions, on ne peut rien y mettre. Le deuxième, il a des trous au fond. On peut verser toute l'eau qu'on veut, mais elle s'enfuit aussitôt. Lorsque ce genre de personne entend le dharma, Celui-ci entre par une oreille et ressort par l'autre. Le troisième genre de récipient, il présente des fissures. On a beau y verser le dharma, il s'échappe lentement et le récipient est de nouveau vide. Le seul récipient utile est le quatrième. Il n'a aucun trou, aucune fissure et il est totalement vide. On bouche nos trous et nos fissures et on se vide totalement. Pour juste être un espace de réceptivité. L'exercice de la méditation, c'est une sorte de combat sacré entre l'ombre et la lumière, avec l'ombre et la lumière, de manière à aller au-delà. Et ça se fait à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais finir avec Ajahn Suchito qui dit « En fait, on pourrait résumer l'entraînement d'une pratique spirituelle comme la transformation de nos désirs égoïstes en désirs désintéressés. Le désir qui agit comme motivation pour nous pousser à découvrir les choses telles qu'elles sont, au-delà de notre besoin instinctif de gratification, ce désir est une juste énergie pour nous permettre de traverser les épreuves qui jalonnent le chemin. D'une certaine manière, tous nos désirs sont des sublimations de notre soif de libération. Je désire quelque chose pour pouvoir faire l'expérience d'arrêter le désirer. » Et si vous regardez, ce geste-là est vraiment le meilleur. Je laisse faire le dharma en moi, je lâche. Et ça donne une force incroyable d'engagement, mais d'engagement sage. Dans notre vie, il y a d'engagement simple et humble. Voir et laisser faire le dharma. Voir, c'est notre part. Mais le reste, lâchons. On peut prendre un moment en silence.